Radio Kapi. Au sommaire de ce journal, ambiance festive hier vendredi dans la soirée sur les artères de la ville de Bounia en Ituri. Des finalistes humanitaires accompagnés de leurs proches célébraient leur réussite après la publication des résultats de l'examen d'État. Les autorités scolaires appellent à la modération pour ne pas troubler l'ordre public. Journée mondiale d'aide humanitaire, c'est ce samedi 19 août avec cet appel de Otia au Nord Kivu à un engagement indéfectible et à agir en faveur des personnes dans les besoins humanitaires. Un plaidoyer exprimé hier vendredi à Goma à l'issue d'une rencontre avec notamment des activistes des droits des femmes. L'invité de ce journal est le ministre provincial du Sud Kivu en charge des transports et voies de communication. Mathieu Alimasi Malumbi parle du projet à arrêt unique au poste frontalier des Ruzizi 2 qui avance normalement en dépit de quelques écueils perceptibles sur le chantier. Et d'abord, cette information avant le développement de ce titre dans la province du Congo central. 6 personnes sont mortes dans un accident grave de circulation survenu hier vendredi matin sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, près du péage de Lukula, en territoire de Manzangungu. Selon les témoins, la somnolence du conducteur au volant d'un véhicule poids lourd serait à la base de cet accident. Le camion a fini sa course en cognant une voiture. Les blessés sont actuellement pris en charge dans le centre hospitalier de Lukala. Un autre drame, cette fois, c'est dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Deux corps sans vie ont été découverts hier vendredi matin dans une maison à Eringeti, 60 km de Beni. Selon le président de la société civile locale, il s'agit d'un militaire des FARDC venu de Ndalia, dans la province voisine de l'Ituri, qui a ouvert les feux sur son épouse avant de se donner la mort. Le mobile de ce drame n'est pas encore connu. On apprend cependant que l'auditorat militaire a ouvert une enquête à ce sujet. Je le disais au sommaire, rendons-nous à Ituri pour commencer avec cette ambiance de fête hier vendredi dans la soirée sur les artères de la ville de Bounia et dans de nombreuses familles. Des élèves finalistes des humanités, accompagnés de leurs proches et autres camarades de classe, célébraient leur réussite après la publication des résultats de l'examen d'État. Pendant que les uns expriment leur joie de franchir une étape, les autorités scolaires appellent tous les lauréats, même ceux qui sont en attente des résultats, de modérer leur comportement pour ne pas troubler l'ordre public. Reportage Ezekiel Mouzalia.
C'est l'ambiance qui prévaut dans une grande partie de la ville de Bounia ce vendredi soir depuis l'annonce des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023. Tête couverte de poussière pour certains, pour d'autres c'est la poudre. À moto ou à pied, des groupes de jeunes scandent des chansons pour exprimer leur joie. Quelques lauréats rencontrés sur le tronçon qui mène à la prison centrale témoignent.
Une joie immense. Premièrement, je remercie mes condisciples. Ah, je me sens vraiment libérée.
C'est concentré corps et âme. On a prié aussi.
Je ne sais pas comment me manifester, mais je m'attendais à ça. C'est le fruit de mon travail.
Le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Ituri 1, demande aux parents de veiller sur les comportements de leurs enfants afin, dit-il, de prévenir tout dérapage qui pourrait hypothéquer leur avenir. Jean-Jacques Masumbuko.
Je demande à tous les finalistes, tous les lauréats, de se comporter en responsable. Je voudrais qu'ils reçoivent ça comme un message.
Le commandant ville de la police dit avoir renforcé les effectifs des patrouilleurs pour prévenir des cas de dérapage lors de ces manifestations de joie. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la chef du sous-bureau d'Otia appelle à un engagement indéfectible à agir en faveur des personnes dans le besoin humanitaire, qui qu'elles soient, où qu'elles soient et quoi qu'il arrive, précise-t-elle. Un plaidoyer de Merci Magnala, intervenu en marge de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée ce samedi 19 août. Elle s'est ainsi exprimée hier vendredi à Goma, à l'issue d'une rencontre avec une vingtaine de femmes, activistes des droits des femmes et autres représentants des déplacés. Selon elle, même étant victime de la crise qui s'est accentuée à la suite de l'instabilité sécuritaire au Nord Kivu, les femmes déplacées peuvent aussi agir en tant qu'actrices humanitaires. Merci, Magnala, est au micro de Bernard Nyangi.
C'est Le début de la journée mondiale pour l'aide humanitaire. Comme au Tchad, on est décidé pour faire une activité avec les ONG féminines. Mais aussi, on est demandé pour la participation des femmes déplacées pour être compréhensibles sur les questions humanitaires. Aussi pour discuter ce qu'elles défient les femmes face au niveau des sites de déplacés. Comment ensemble on va trouver la solution. L'humanitaire, c'est nous tous. Donc, tout le monde a les responsabilités pour faire quelque chose, pour contribuer à cet aspect. Il y a les moments, chaque fois, où on parle plus des défis. Mais cette fois, avec les compréhensions, c'est qui est humanitaire. On espère, après cette discussion, tout le monde va voir comment il va vraiment essayer pour contribuer, pour chercher les solutions et pour améliorer les conditions. Normalement, c'est les femmes et les enfants qui sont plus affectés si on est avec les cris. Aussi, c'est eux qui sont avec beaucoup de responsabilités pour aider les enfants, mais même les hommes dans les familles. Et c'est pourquoi on cible cette groupe.
Ajoutons que cette rencontre de partage sur la 20e journée mondiale de l'aide humanitaire a été organisée en collaboration avec l'ONG Action des volontaires pour la solidarité et le développement. Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, plus de 1000 ménages déplacés internes du conflit communautaire Mbole Lingola bénéficient d'une assistance humanitaire dans l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elle est constituée notamment de bidons, de gobelets, d'assiettes, de casseroles ainsi que de savons de lessive. Cette assistance, remise hier vendredi, fait suite au plaidoyer mené par la gouverneure de province auprès des partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais. Plus de détails avec vous, Jacques Moukonkolé.
La distribution de ces kits a commencé par le site des Konga-Konga dans la commune Kisangani, avant de se poursuivre dans deux autres sites à Lubunga. Le docteur Kowem Biaviko Willibar, chef du sous-bureau de l'OMS Kisangani, annonce la poursuite d'autres actions humanitaires dès la semaine prochaine.
Nous sommes venus ici pour honorer une promesse, celle de doter la population déplacée en kit hygiénique. Et après, nous allons également financer les forages avec l'addition d'eau qui va desservir toute la population déplacée, qui va commencer le lundi.
Satisfaction des bénéficiaires, à l'instar de Moussafiri Amissi. Cependant, il s'est dit préoccupé surtout du sort de leurs enfants au seuil de la rentrée scolaire.
Je suis très content. Ça peut nous aider à chercher de l'eau à boire et pour préparer la nourriture. Mon souhait, c'est pour rentrer chez nous. Mais je ne sais pas en quelle date nos enfants pour rentrer en rentrée scolaire.
Tout en remerciant l'OMS pour ses dons, la ministre provinciale des Affaires humanitaires, Bernadette Foura, lance un appel à d'autres partenaires.
Nous réceptionnons ces jours, ces lots importants des intrants, envie de permettre à nos frères et sœurs, personnes déplacées internes, de soulager tant soit peu leurs besoins et exhortons par la même occasion aux autres partenaires d'emboîter le pas de l'OMS.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et par contre, près de 10 000 personnes qui ont fui les exactions des miliciens de la CODECO en début de la semaine dans plusieurs villages de la chefferie Babelébé sont en détresse dans leurs milieux de refuges. Ces déplacés, composés essentiellement des enfants et des femmes, n'ont pas de vivres et des médicaments ainsi que des abris, alerte la société civile du territoire d'Iromou. Son président indique que d'autres localités proches, dont Kunda, se vident également de leurs habitants qui redoutent l'attaque de ces groupes armés dans cette zone où il n'y a plus des FARDC. Restons en Ituri, où les leaders du groupe armé Force Patriotique Intégrationniste du Congo s'engagent à ne plus commettre des exactions contre la population dans les entités où cette milice était active. C'était au cours d'un dialogue démocratique qui s'est tenu hier vendredi à Mwanga, 12 km au nord de Bunia, dans les territoires d'Irumu. Cette rencontre a été organisée par le gouvernement provincial avec l'appui des partenaires dans l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, dans le cadre de son projet Restauration de l'autorité de l'État. Et puis la SADC approuve le déploiement d'une mission en RDC pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Décision prise lors du 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu jeudi dernier à Luanda, en Angola. Par ailleurs, les dirigeants de la SADC expriment leur soutien à la coordination et à l'harmonisation des initiatives de paix dans l'Est de la RDC par divers acteurs dont la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les Nations Unies et la Commission de l'Union africaine. D'autre part, les sommets soulignent la volonté des États membres de la SADC de tenir des élections au cours de l'année 2023. Parmi ces pays figurent notamment la RDC, le Zimbabwe et le Madagascar. De son côté, tout en déplorant le bilan humain de la crise dans l'est de la RDC et en condamnant les attaques brutales contre les civils, les États-Unis affirment que la meilleure solution à cette crise est diplomatique. Washington s'est exprimé ainsi par la bouche de sa sous-secrétaire d'État adjointe par intérim Victoria Nuland. Cette dernière a effectué une visite en RDC en début de ce mois d'août, au cours de laquelle elle a rencontré des responsables du gouvernement congolais. Objectif, discuter avec eux du soutien des États-Unis sous plusieurs formes, notamment la tenue des élections libres et équitables, la paix et la sécurité dans l'est du pays, l'aide humanitaire, la prospérité économique, les institutions démocratiques et bonne gouvernance. La déclaration de la diplomate américaine est contenue dans un communiqué de presse rendu public hier vendredi à Kinshasa par l'ambassade des États-Unis en RDC. Pele Kipelamondo nous en donne les grandes lignes.
Sur la crise qui secoue l'Est de la RDC, Victoria Nuland, qui met en avant la diplomatie pour y mettre un terme, dit apprécier l'engagement des dirigeants régionaux à travers leur médiation dans le processus de Luanda et de Nairobi. Ces efforts, dit-elle, ont généré une feuille de route pour des progrès rapides vers une solution diplomatique et durable. Reconnaissant les besoins urgents de protection dans l'Est de la RDC, la sous-secrétaire d'État par intérim des États-Unis salue les efforts déployés par le gouvernement congolais pour enquêter sur l'exploitation et les abus sexuels de certaines personnes les plus vulnérables dans cette partie du pays. Elle annonce une aide humanitaire supplémentaire de 48 millions de dollars pour secourir les personnes les plus vulnérables à l'exploitation et aux abus. Ces financements, selon elle, porte l'aide humanitaire américaine totale à près de 486 millions de dollars pour l'exercice financier en cours. Washington encourage les autres partenaires de la RDC à faire davantage. Parlant des élections, la diplomate américaine indique que des élections libres et équitables, tenues pacifiquement, à temps et à des processus inclusifs et transparents, renforceront la consolidation démocratique de la RDC et répondront aux revendications des citoyens pour un gouvernement responsable et représentatif.
Pele Kipelamondo sur Radio Okapi. Retour au Nord Kivu avec cette montée de l'insécurité dans la cité frontalière de Kasindi. La société civile appelle la population à dénoncer tout malfaiteur qui se cacherait au sein de la communauté. Elle plaide également pour que la police soit dotée des moyens logistiques nécessaires afin de lui permettre de répondre efficacement aux besoins sécuritaires de la population. Meleki Moulala, président de la nouvelle société civile dans le secteur du Rwenzori, est au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Ça fait au moins 2 semaines que les bandits sont en train de déranger la paisible population dans les différents quartiers au niveau de Kasindi. On ne sait pas où seraient venus ces bandits-là qui cambriolent dans des maisons des paisibles citoyens avec des armes blanches, tantôt mini, des armes à feu et habillés parfois à tenues semblables à celles de nos forces armées, parfois à tenues semblables aux policiers. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à une grande vigilance, à une grande mobilisation. S'il y a quelqu'un qui connaît là où se cacheraient ces ennemis de la paix, là où se cacheraient ces bandits, de les dénoncer auprès des services de sécurité, auprès des autorités. Mais ce qui nous choque, certains de nos commandants auraient dit que leur retard d'intervention est dû au manque de carburant. Cela ne se comprend pas. Comment on peut doter une entité comme Kasindi des éléments de la police qui n'ont pas de carburant, qui n'ont pas de moyens, pendant qu'ils sont là pour sécuriser les civils avec leurs biens?
Notez que la MONUSCO dote régulièrement la police nationale congolaise dans la région de carburant pour lui permettre de remplir sa mission. Cependant, une rupture est observée depuis quelques temps, mais du côté de la police de la MONUSCO, on indique que cet approvisionnement pourrait reprendre prochainement. Au Nord Kivu, toujours au moins 9 jeunes présumés kidnappeurs sont aux arrêts à Goma. 5 d'entre eux qui se font kidnapper ou kidnappent un proche dans l'objectif de soutirer l'argent aux membres de leur propre famille sont tombés dans le filet de la police. Les 4 autres accusés d'être impliqués dans plusieurs forfaits d'extorsion et kidnapping ont été attrapés par le service des renseignements militaires. Ces 2 bandes ont été présentées à la presse par le chef provincial de la PNC Nord Kivu. Rappelons qu'une tension a été observée jeudi matin à Goma lorsque plusieurs jeunes manifestants pour manifester pour la libération de Youssouf Assoumani, un étudiant de l'ISTA, et Fabrice Kamwanya, un prédicateur qui, jusqu'à présent, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Nord Kivu encore, les organisations environnementales appellent à une mobilisation contre la corruption et les trafics illégaux des espèces de faune et de flore protégées. Elles réagissent ainsi à la désignation américaine mercredi dernier des trois personnalités congolaises comme inéligibles à l'entrée aux États-Unis en raison de leur implication dans une corruption importante. Selon ces ONG, cette mesure intervient au moment même où le parc national de Virunga est dévasté en raison du regain de la corruption et du trafic illégal. Le secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, une de ces organisations, estime que cette sanction revêt un caractère pédagogique. Maître Olivier Ndoole, dans ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
Cette décision, c'est l'expression de la justice internationale, quelle que soit sa forme, en faveur des droits et la défense des animaux et de la biodiversité. Mais aussi, c'est un message fort par rapport à toutes les autorités qui s'en donnent aux activités de trafic illicite de la faune et flore sauvage et d'autres qui excellent dans la corruption pour faciliter les trafics illégaux et autres contrebandes qui mettent en mal la biodiversité de la RDC. Je pense que les autres acteurs de la communauté internationale tels que l'Union européenne, l'Union africaine et pourquoi pas même au niveau de East Africa, SADC, vont suivre aussi cet exemple en élargissant leur politique par rapport à cet aspect. L'exploitation de la faune et flore sauvage du parc national de Virunga vers Rutshuru là-bas mérite aussi une justice. C'est l'État aussi d'interpeller le département d'État, d'élargir les enquêtes et les sanctions par rapport à tous ces intervenants. Par exemple, le cas de certaines armées qui ont été déployées au Nord Kivu, qui ont été accusées d'avoir été impliquées dans cette vaste destruction dans le parc national de Virunga.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, au moins 2500 étudiants finalistes des écoles de formation ont bouclé hier vendredi leur sixième semaine de sit-in devant le ministère de la fonction publique pour réclamer leur intégration. Ils ne sont pas prêts à lever leur mouvement face à l'insensibilité des autorités.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre provincial du Sud-Kivu en charge des transports et voies de communication, Mathieu Alimasi Malumbi. Parler du projet à arrêt unique au poste frontalier des Ruzizi 2 qui avance normalement en dépit de quelques écueils perceptibles sur le chantier. Le ministre prévient l'entreprise de construction Trade Merck Est Africain qu'il n'y aura pas de prolongation car les bailleurs de fonds qui est l'Union européenne attend voir l'ouvrage achevé au plus tard le 31 janvier 2024. Mathieu Alimasi Malumbi s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Mathieu Alimasi Malumbi, sur quoi la réunion entre les parties prenantes du projet à arrêt unique de Ruzizi 2 a porté ces jours?
La réunion de l'équipe du projet d'aujourd'hui, c'est la deuxième séance que nous venons de passer ensemble. L'entreprise qui exécute les travaux, le bureau de suivi ou bureau d'études ou les consultants, Trademark Est Africa, mais aussi l'OIM et les gouvernements. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est juste essayer de recadrer le tir. La réunion passée, on a formulé les recommandations au gouvernement de la province, à Trademark, à Yangjin, l'entreprise qui fait le travail, ainsi que même au service de l'ordre opérationnel. Et voilà ce qui a été l'essentiel de notre réunion d'aujourd'hui, c'était de passer en revue, de présenter l'état d'avancement, mais aussi essayer de voir comment l'administration se passe sur les chantiers entre l'entreprise ainsi que le bureau d'études.
Quel a été le constat?
Nous avons trouvé qu'il y a de ces recommandations qui ont été répondues et d'autres recommandations qui sont reconduites, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de réponse lors de cette phase que nous avons traversée.
Et quel est maintenant l'état d'avancement des travaux sur les chantiers de Ruzizi 2 à la phase actuelle?
L'entreprise a montré comment on a commencé le travail jusqu'à la date du 16 et chaque partie a donné son point de vue pour que le travail puisse avancer d'une manière là conforme, convenable et rapide parce que nous avons une date rouge qui est devant nous. La date du 31 janvier, c'est une date à laquelle le bailleur a exigé que les travaux doivent être complètement terminés.
Des recommandations ont été formulées pour permettre une évolution efficiente des travaux. Quelles sont-elles?
La première recommandation, c'est l'augmentation des ouvriers sur le chantier. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un effectif conforme qui doit travailler d'arrache-pied pour qu'à la date du 31, qu'on puisse répondre aux préoccupations du bailleur, mais aussi aux préoccupations des bénéficiaires, l'État congolais. On a parlé aussi sur les matériaux et les matériels sur les chantiers. Il ne faut pas qu'il y ait rupture des matériels. Il ne faut pas qu'il y ait rupture des matériaux. Raison pour laquelle on a recommandé à l'entreprise de s'approvisionner localement ici en ciment et le ciment lac.
Quid du point sur l'administration du projet et comment ça se passe sur le terrain, monsieur le ministre?
Pour ce qui est de l'administration du projet, l'équipe d'évaluation et donc du suivi bureau de titre a été recommandé d'être sur le terrain et non pas de suivre les activités à distance. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ce bureau de titre vient de nous présenter certains défis, les insuffisances que l'entreprise est en train de commettre sur le terrain. Nous disons que le bureau de titre et l'entreprise doivent se mettre ensemble pour pallier ou surmonter certaines difficultés. Et à l'entreprise, on a demandé de suivre les différentes recommandations, les suggestions que le bureau leur donne. C'est à leur avantage. Et puis de remonter l'information à leur siège pour permettre à ce que le point de vue du bureau de titre puisse raconter l'assentiment ou l'accord de l'entreprise qui est en train de faire le travail sur le terrain.
Le gouvernement congolais, à travers votre bouche, demande à l'entreprise d'exécution des travaux d'éviter les saupoudrages.
Le gouvernement congolais attend un travail de qualité à un délai qui est raisonnable. Parce qu'il n'y aura pas de report, il n'y aura pas un délai de surplus. Et le seul moyen, la seule voie d'être à jour avec ce travail, mettre beaucoup d'ouvriers, parce qu'il y a des tâches qui peuvent être travaillées concomitamment. Mais avec un effectif faible sur les chantiers, mais aussi avec un effectif faible de matériel, à partir d'aujourd'hui, commencer à commander, commencer à chercher d'autres matériels qui peuvent faciliter à aller de l'avant sur les chantiers.
Merci, monsieur le ministre Mathieu Alimasi Malumbi.
Merci beaucoup.
Mathieu Alimasi Malumbi, ministre provincial du Sud-Kivu, en charge des transports et voies de communication, s'entretenait à Bukavu avec Jean Kassami. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.